quand les sacrificateurs venaient à l'autel, ils venaient avec les mains remplies. Ils venaient pas avec les mains vides. Ils avaient quelque chose à offrir. Les holocaustes. Et les holocaustes, qu'est-ce que c'est que les holocaustes? Ce sont nos expériences de Christ.
Amen.
C'est-à-dire que ce n'est pas ce que nous pouvons donner au Seigneur, mais ce que le Seigneur a fait en nous, ce qu'il a œuvré en nous, que nous rendons au Seigneur. Vous voyez, le principe de l'Holocauste est que ce n'est pas que je donne quelque chose à Dieu, Dieu n'a besoin de rien, mais je donne à Dieu, j'amène à Dieu ce que Dieu a déjà fait en moi. Ah. Donc, ce n'est pas que je fais une faveur ou que je rends plaisir, fais plaisir à Dieu. Ça, c'est le principe de Caïn. Caïn a amené, apporté quelque chose que lui, il avait œuvré le meilleur de ses efforts à Dieu. Et Dieu n'était pas content. Dieu veut, tout ce que Dieu veut, c'est lui-même. Dieu n'est pas satisfait de rien de moins, il n'est satisfait de rien de moins, n'est-ce pas, de rien de plus que lui-même. Alors, beaucoup croient que Dieu, je te donne, je te rends une faveur, je te fais plaisir en venant à toi avec mes offrandes. Voyez, donc vous vous souvenez, n'est-ce pas, quand le Seigneur Jésus regardait les gens venir offrir, il voyait, n'est-ce pas, des riches qui venaient avec leurs offrandes. Ah, beaucoup, beaucoup d'offrandes. Mais il a vu, n'est-ce pas, la veuve qui n'avait que quoi, qu'un sou, qui a donné tout ce qu'elle avait. Hein? Et il a remarqué, il a dit, vous voyez, hein, béni soit celui, n'est-ce pas, qui, eux, n'est-ce pas, ils ont offert de leur richesse. Mais elle, elle a offert de son manque. N'est-ce pas? Tout ce qu'elle a offert, tout. Elle a offert tout de son manque. Ça veut dire qu'elle n'avait pas grand-chose. Mais ce qu'elle avait, c'était ce que le Seigneur avait œuvré en elle, avait gagné en elle. Et c'est ça qu'elle a offert. Tandis qu'il est possible d'offrir beaucoup de choses au Seigneur sans le Seigneur. N'est-ce pas? Pour le Seigneur, mais sans le Seigneur lui-même. Et le Seigneur dira, je n'ai pas besoin de ça. Ah. J'ai besoin seulement de ce qui sort de moi, ce qui a son origine avec moi, ce que moi j'ai œuvré. Donc, quand les sacrificateurs venaient à l'autel, ils apportaient des animaux, des holocaustes. Ah. Mais l'holocauste était brûlé. L'holocauste était offert, était mis sur l'autel et brûlé. Ça veut dire que surtout avec les holocaustes, le prêtre ou le sacrificateur n'avait aucune part. Il n'y avait rien pour lui-même, sauf la peau. la peau, il pouvait la manger. Hein. Mais tout l'animal était coupé et était brûlé par Dieu, pour Dieu. Ça veut dire que le sacrificateur n'avait rien de quoi se vanter. Regardez Dieu, voilà ce que j'ai apporté. Regardez mon offrande. Non, tout ce qu'il a apporté a été brûlé. Tout ce qui restait était l'encens qui montait à Dieu. Il n'y avait rien pour le sacrificateur, tout était pour Dieu. Tout ce qui restait, c'était la fumée, n'est-ce pas, de l'encens. Ça, c'est le principe de l'Holocauste. Le principe de consécration, c'est que nous nous offrons, nous nous donnons au Seigneur tout ce que nous sommes, nous apportons et nous le mettons sur l'autel pour être brûlé, pour satisfaire le Seigneur. C'est tout ce que le Seigneur a œuvré en nous, par son humanité, par sa vie en nous, son humanité, ça, n'est-ce pas, même la vie du Seigneur lui-même, une vie de la croix, une vie de mort, cette vie vécue en nous, n'est-ce pas, vécue par nous, devient un holocauste pour présenter au Seigneur. Donc, quand nous nous consacrons au Seigneur, ce n'est pas vraiment ce que je peux faire pour le Seigneur, mais ce que le Seigneur a fait en moi et ce que je présente au Seigneur, ce que je redonne au Seigneur, c'est moi-même. Avec toutes les expériences, du Seigneur, n'est-ce pas, de la vie du Seigneur, de la mort du Seigneur, œuvrée en moi, qui devient ma réalité. Je le présente au Seigneur. Donc, tout appartient au Seigneur. Ah, tout ce que le Seigneur m'a donné, tout ce qu'il a, la façon dont il m'a créé, ce qu'il m'a donné, la capacité qu'il m'a donné, n'est-ce pas? Toute ma personne, mon intelligence, mon âme, mon esprit, mes pensées, mes sentiments, tout appartient au Seigneur. Je n'ai aucun droit sur moi-même. Je n'ai aucun droit de réserver quoi que ce soit pour moi-même. Tout appartient au Seigneur. Parce que le Seigneur lui-même a vécu une telle vie où il a vécu pas pour lui-même, mais pour le Père. Toute sa vie a été une vie au Père, pour le Père, pour la satisfaction du Père. Ah. Il n'est pas venu pour accomplir une œuvre, sa propre œuvre. Il est venu pour accomplir la volonté du Père. Il dit, n'est-ce pas, un corps, tu m'as préparé un corps, n'est-ce pas? Pourquoi? Pas pour faire de grandes œuvres, mais pour accomplir ta volonté. Dans ce corps, n'est-ce pas, Dieu lui-même, mais un homme, Dieu en tant qu'un homme dans un corps physique, Dieu incarné pour accomplir la volonté de Dieu lui-même. Rien d'autre. Donc, quand le Seigneur Jésus a été crucifié et il est ressuscité, il devait, la première personne qu'il devait voir, c'était le Père. C'était le Père. Parce que toute sa vie, toute son œuvre était pour le Père. C'est le Père qui devait jouir des prémices de l'œuvre de son Fils. Pas l'homme. Ah, pas l'homme. Bon, nous savons que Marie, n'est-ce pas, a forcé le Seigneur à un peu changer l'horaire du Seigneur. Donc le Seigneur, n'est-ce pas, parce que voilà une sœur qui était désespérée, elle a insisté. Mais elle ne pouvait pas quand même le toucher. Parce que ça, c'était le droit du Père. Vous voyez. Mais elle pouvait le voir, elle pouvait lui parler, n'est-ce pas? Donc, le Seigneur, Jésus, il est mort pour nous. Mais la satisfaction, celui qui a joui de la vie et du sacrifice du Fils, c'est le Père. Ah. Donc, la mort de Jésus-Christ était un holocauste au Père. Nous en avons bénéficié, bien sûr. Vous voyez? Mais il a été sacrifié pour la jouissance, pour la satisfaction du Père. Donc, ça c'est le principe. Quand nous nous consacrons, nous nous rendons compte, Seigneur, je n'ai rien de quoi je peux me consacrer. Hein? Tout ce que j'ai, c'est ce que tu m'as donné. Tout ce que j'ai, c'est ce que tu as œuvré en moi. Même le fait que je puisse même me donner au Seigneur. Comment est-ce que moi, je peux me donner au Seigneur? Comment est-ce qu'un homme peut se donner à Dieu? Il faut que Dieu œuvre, il faut que Dieu gagne cet homme. Et donc, nous présentons à Dieu rien d'autre que ce que Dieu a fait en nous. Donc, vous vous souvenez, n'est-ce pas, de la prière, des deux prières dans le Nouveau Testament, la prière du pharisien et la prière du publicain. N'est-ce pas, le pharisien, il a dit, Dieu, je te remercie de ce que je ne sois pas comme cet autre. Et puis, il a récité. Il a fait une liste de ses accomplissements, une consécration. Voilà, l'homme qui vient à Dieu avec ses accomplissements. Hein, je jeûne, quoi, je donne le dîme, bah, je ne commets pas l'adultère comme cet homme, n'est-ce pas? Il est peut-être vrai que il a fait ces choses-là. Hein? Il a fait ces choses-là. Il offrait le dîme. Hein? Il jeûnait. Il ne commettait pas l'adultère. Enfin, n'est-ce pas? Pas physiquement, pas réellement, mais il disait vrai, n'est-ce pas? Mais ça, ce n'est pas la consécration. Ça, c'est l'homme, n'est-ce pas? Voilà ce que j'ai fait pour Dieu. Tandis que l'autre, il n'a rien apporté. Il n'a rien fait pour Dieu. Au contraire, il a été contre Dieu, n'est-ce pas? Toute sa vie, il ne s'est même pas
Il n'a même pas osé
lever les yeux. Mais il a dit, Dieu, sois miséricordieux envers moi, le pécheur. Ça, c'est la consécration, n'est-ce pas? Je viens à Dieu, rien à donner à Dieu de moi-même, mais ce qu'il a donné, ce qu'il m'a donné, ce qu'il a fait en moi, je le rends à Dieu. Voilà, ça c'est la consécration. Donc, si nous sommes touchés par le Seigneur de nous donner, de nous consacrer, nous n'avons rien de quoi nous vanter. Nous ne pouvons même pas nous dire, oh, moi, j'ai été dans la vie de l'Église depuis, je suis dans la vie de l'Église depuis 20 ans, depuis 25 ans. J'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai sacrifié ça, j'ai renoncé à ça. Non. C'est tout à fait la miséricorde du Seigneur. La consécration, c'est une vie de la croix. Donc, la croix termine. Oui, la croix termine nos péchés, mais la croix termine aussi nos accomplissements. La croix termine même notre poursuite de Dieu. Notre poursuite de Dieu. La croix nous dit, vous avez fait, tu as fait ce que tu aurais dû faire. Vous voyez, après tout ça, hein, j'ai sacrifié, hein, j'ai assisté à tant de réunions, j'ai lu tant la... n'est-ce pas, combien de la Bible, combien de fois j'ai lu la Bible, combien de fois j'ai prié. Non, tout ça, ce n'est pas la consécration. La consécration, c'est que Dieu, je viens tel que je suis. Je réponds, je te réponds. Je te donne ce que tu m'as déjà donné. Donc, quand je te sers, c'est ce que je devrais faire, rien de plus. Donc, quand Paul dit, n'est-ce pas, dans Romains chapitre 12, frère, je vous prie, n'est-ce pas, quoi, de présenter, n'est-ce pas, vos corps comme un sacrifice vivant. Ce qui est, oui, agréable. Ce qui est votre service. Oui, c'est ça. C'est votre service, hein, raisonnable, quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Oui. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ah. Il ne dit pas un culte noble, un culte glorieux, un culte digne de l'homme, n'est-ce pas? Non. Un culte raisonnable. C'est-à-dire que vous auriez dû le faire et vous l'avez fait. Il n'y a pas de bravo là. Ça, c'est la consécration, n'est-ce pas? Ah, la consécration, parfois quand nous nous consacrons, c'est comme si, waouh, n'est-ce pas? Nous sommes presque des héros, n'est-ce pas? Voilà, nous avons renoncé à ça. À ça. Ah, Non. C'est Dieu. Dieu ne veut. Tout ce que Dieu veut, c'est lui-même. Ah, lui-même en nous. Alors, donc, même quand Ésaïe, n'est-ce pas, a répondu à l'Éternel, l'Éternel, me voilà. Qui enverrai-je? Me voilà. N'est-ce pas? Envoie-moi. Mais ses lèvres devaient être touchées, purifiées. Ça veut dire que quand nous nous consacrons au Seigneur, le Seigneur, nous donnons au Seigneur le droit, son droit, de œuvrer en nous, de nous toucher, de nous battre, n'est-ce pas, de nous rendre, de nous traiter comme de l'or battu. Quelque chose qui va être précieux. Quelque chose qui va correspondre à sa nature. Hein? Le chandelier était fait d'or battu. Ça veut dire que sans le battement, hein, sans le traitement, notre consécration ne sera pas éprouvée, ne sera pas réelle. Donc, on a parlé un peu de ça ce matin, n'est-ce pas? Avec la consécration, il y aura toujours une épreuve qui va venir pour éprouver la validité, la durabilité de la consécration. Est-ce réel? Est-ce vraiment quelque chose? Est-ce que c'est comme si nous disions à Dieu, Dieu, fais tout ce que tu veux. Fais, toi, tu fais tout ce que tu veux en moi. Pas Dieu, je vais faire tout ce que je veux pour toi. Mais au contraire, Dieu, fais tout ce que tu veux en moi. Et Dieu va dire, d'accord, c'est vrai? Vraiment? Alors, on va voir. Tu es prêt à être battu? Tu es prêt pour que le marteau, n'est-ce pas, monte et descende? Bon, ça c'est la base de notre vie chrétienne, la base de l'édification de l'Église. C'est après le rétablissement de l'autel que le peuple de Juda a posé le fondement du temple. Nous avons lu les versets, n'est-ce pas? Bon. Ils ont rétabli l'autel, ils ont apporté les holocaustes, et ensuite, ils ont fondé le temple. N'est-ce pas? Ils ont posé le fondement du temple. Bon. Et c'était vraiment quelque chose de petit. Vous voyez, il y avait les vieillards, ceux qui avaient été là vers la fin, les derniers jours de la première maison. Et ils se souvenaient de ces jours-là. Mais franchement, ces jours-là n'étaient pas glorieux. L'apparence était glorieuse. L'apparence du premier temple était glorieuse. Mais la réalité n'était pas là. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, Dieu les a ramenés en captivité. Parce que le contenu, le temple était vide. Mais, n'est-ce pas, ceux qui étaient plus âgés, ils se souvenaient de ça. Et ils voyaient le deuxième. Et la petitesse, l'insignifiance, n'est-ce pas,
quelque chose de... C'était pas des professionnels, on peut dire. Si vous pouvez, c'est pas pour comparer. Pas... Le premier a été fait par des professionnels. Oh, Salomon, n'est-ce pas? David avait tout à désigner, dessiner même, en détail. Il a donné à son fils le plan à suivre. Et puis, Salomon avait embauché ceux de Lebanon, n'est-ce pas, des ouvriers, n'est-ce pas, on peut dire des professionnels, ceux qui s'y connaissaient. S'y connaissaient. Hein. Des gens formés, on peut dire des enseignants de la Bible formés, n'est-ce pas, dans des séminaires théologiques. Voilà, n'est-ce pas? On aime ça, n'est-ce pas? Là. Alors, souvent, on me demande, parfois, on me demande, quand je prêche l'évangile, « Ah, où est-ce que tu as été formé? Où est-ce que tu as été? Où est-ce que tu as reçu ton diplôme? » Et je dis, en français. Je sais, mais c'est celui-là. Je ne suis pas diplômé, j'ai pas de diplôme de divinité, n'est-ce pas? Je ne suis pas professionnel, je suis amateur. Oh, n'est-ce pas? Donc, le contraire, c'est quoi? Amateur. Amateur. N'est-ce pas? Donc, oui, je me rappelle quand j'étais jeune, quand j'étais toujours étudiant. Non, j'avais commencé à travailler, à enseigner. Et on est sorti prêcher l'évangile. Il y avait un homme, on a frappé à la porte. Et il a dit, on lui a parlé, il a dit, « Oh, vous devriez aller à l'école théologique. Comme ça, vous sauriez plus, n'est-ce pas ? Vous, vous sauriez comment prêcher l'évangile, ou comment... » Bon. Et peut-être qu'il avait raison, n'est-ce pas? J'étais jeune, je ne savais pas, n'est-ce pas, grand-chose. J'étais zélé, mais... Alors, mais voyez, on aime les professionnels, les professionnels. Donc, le premier temple a été construit par des professionnels. Le deuxième, c'était des amateurs. Des gens qui n'étaient pas qualifiés, on peut dire, ils n'ont pas suivi le modèle de Moïse, tel que Moïse, enfin, selon les dimensions exactes. Et ils ont posé les fondements. On ne sait même pas comment il les a posés. N'est-ce pas? La Bible ne le dit pas. Mais ils ont répondu. Et ça, c'est la conseil. Ça, c'est le résultat de la consécration. Quand nous sommes consacrés au Seigneur, il y aura quelque chose. Et Dieu ne... Il ne s'attend pas à quelque chose de parfait. Il ne s'attend pas à quelque chose de merveilleux. Parce que tout ce que nous faisons comme réponse à Dieu, à l'œuvre de Dieu en nous, est merveilleux. Hein? Donc, Dieu dira, n'est-ce pas, dans Zacharie, n'est-ce pas, je ferai... La gloire du deuxième sera plus que la gloire du premier.
Amen.
Mais ça ne se voit pas. C'est pas évident, n'est-ce pas? Ceux qui se souvenaient du premier, ils ont pleuré. Ceux qui ne savaient rien du premier, ils se sont réjouis. Mais ce qui est merveilleux, c'est que tous les deux ont loué le Seigneur. N'est-ce pas? C'est que les larmes et les cris de joie se sont mélangés, se sont mergés en un louange, n'est-ce pas, à Dieu. Alors, on ne distinguait même pas, n'est-ce pas, le verset dit, qu'on ne pouvait pas distinguer les pleurs des cris de joie. C'était comme un cri unanime à Dieu. Et ça, c'est, n'est-ce pas, ça, c'est la louange. C'est que Dieu accepte. Dieu, pour Dieu, ce n'est pas une question de avoir raison ou d'avoir tort, mais une question de notre cœur. Ah. Là où nous sommes, il y aura ceux qui se souviennent du premier temple. Il y en a d'autres qui n'ont aucune idée de ça, mais ils sont jeunes et ils veulent, n'est-ce pas, avancer. Tous les deux, Dieu accepte. Et il n'y a pas de distinction, mais tout submerge, tout, n'est-ce pas, s'amalgame en une adoration à l'Éternel. Ça c'est l'unité du corps, l'unité entre les frères et les sœurs. Donc, peut-être que certains d'entre vous, ou la plupart d'entre vous, vous, n'est-ce pas, vous participez à la vie de l'Église à Abidjan. Hein, quand vous avez commencé, vous étiez peu nombreux. Maintenant, vous multipliez, mais vous êtes encore peu nombreux, n'est-ce pas? Peut-être qu'il y a d'autres, n'est-ce pas, qui, n'est-ce pas, qui sont venus ou qui étaient autrefois dans une vie de l'Église plus nombreuse, plus grande, n'est-ce pas? Et par rapport à ça, n'est-ce pas, il y a une comparaison qu'on peut faire. Mais peu importe, c'est que Dieu accepte tout. Il accepte nos pleurs, il accepte nos louanges. Donc, nos cris de joie, n'est-ce pas? Et ce qui est vraiment touchant, c'est que les vieillards sont restés. Ils ont pleuré, mais ils étaient là, n'est-ce pas? Ils ne sont pas partis en disant, ah, ça, c'est pas l'œuvre de Dieu, c'est pas le travail, c'est pas le déplacement de Dieu, c'est pas ce que Dieu est en train de faire. Vous, les jeunes, vous avez tort, vous faites tout. Non, nous allons vous enseigner comment le faire. Non, ils n'ont pas fait ça. Ils ont participé, ils étaient là, ils se sont présentés, ils se sont consacrés. Et les jeunes, n'est-ce pas? Les jeunes ne se sont pas moqués des vieillards non plus, en disant, ah, vous êtes tapés. Vous vivez dans les mémoires, n'est-ce pas? Ah, vous êtes comme... Vous êtes comme Siméon, n'est-ce pas? Ils auraient pu dire quand, finalement, vous, n'est-ce pas, à l'âge de quoi, 84 ans, très, très, très vieux, il a finalement vu le Seigneur, et il a dit, maintenant, tu peux enlever ton serviteur. Ta vie était finie, n'est-ce pas? Non, les jeunes n'ont pas, ils ne se sont pas moqués des vieillards, mais tous les deux étaient là,
en harmonie, n'est-ce pas? Avec des réactions différentes, oui.
Mais une adoration unanime, ça c'est la vie de l'Église. Ah, il faut accepter les uns les autres. Ah, il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas c'est difficile parfois, je sais. À Chicago maintenant, hein, on est peu nombreux. Et on était très très nombreux avant. Alors, c'est pas facile. Même ma femme, n'est-ce pas, elle a perdu beaucoup de des sœurs qui étaient proches d'elle. Donc elle n'a même pas de con. Elle a perdu ses compagnes. Oui, et donc c'est pas facile pour elle, n'est-ce pas, de continuer de la connectivité, n'est-ce pas, la vie ensemble. On était ensemble, il y avait des réunions des sœurs, on était toujours ensemble. Cette camaraderie, maintenant on est peu nombreux. Donc, c'est pas facile. On se souvient du bon vieux temps, n'est-ce pas? je pouvais. Oui. Mais ça c'est la consécration. Je me suis consacré au Seigneur, n'est-ce pas? L'apparence, la forme peut changer. La façade peut changer. L'extérieur peut changer. Ah, mais ce que Christ a fait ne change jamais. Vous voyez, même il se peut que certains frères, certaines sœurs partent. Et ça c'est difficile, très difficile. Et même on se demande pourquoi est-ce qu'ils sont partis. Mais ce que Christ a œuvré ne s'en va jamais, ne part jamais. Vous voyez, ce que Christ a bâti reste. Donc, le reste, n'est-ce pas, ce qui reste, Dieu y fait attention. Dieu fait attention à ça. Ce n'est pas beaucoup, c'est petit, c'est même méprisable, hein, mais Dieu dira, je ne m'intéresse pas à une grande façade. Je m'intéresse à quelque chose de réel, qui est moi-même, œuvré dans les frères et les sœurs. C'est ça qui a de la valeur. Alors, ne méprisez pas le jour des petites choses, n'est-ce pas? Oui. Le faible commencement, c'est ça. Ne méprisez pas les faibles commencements. Oui, c'est une bonne traduction. Les faibles commencements. Parce que les faibles commencements ont plus de valeur qu'un essor énorme sans Christ, sans la réalité de Christ. Vous voyez? Donc voilà quelques individus dans Esdras, un petit pourcentage qui ont été prêts à se semer. Ils n'ont pas exigé que d'autres retournent. Eux, ils ont entendu la voix de l'Éternel, eux,
leur esprit ont été réveillés, ils ont répondu. Ils n'ont pas demandé aux autres, venez, venez, pourquoi est-ce que vous restez? Pourquoi est-ce que vous vous occupez de vos champs, de vos vignes, de vos maisons? N'est-ce pas? Non, est-ce que vous n'avez pas entendu la voix du Seigneur, de l'Éternel, après 70 ans? C'est l'heure de se lever. Donc, ils se sont levés. Ils ont répondu. Ils sont venus. Ils ont commencé à rebâtir la maison. Ce n'est pas la responsabilité des autres, c'est ma responsabilité.
Amen.
N'est-ce pas? Et ça, c'est la consécration. Je me consacre. Hein? Je me consacre. Je suis le Seigneur. Les autres vont suivre. Mais ça, c'est entre eux et le Seigneur. Vous voyez, quand Pierre, n'est-ce pas, le disciple que Jésus aimait, Pierre a dit, demandez au Seigneur, et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Le Seigneur a dit, toi, tu suis moi, tu me suis, suis-moi. Laisse l'autre frère, il va me suivre. Ne t'occupe pas de lui. Hein? Occupe-toi plutôt de ta poursuite de moi. Donc voilà, n'est-ce pas, des gens qui sont retournés. Un faible commencement. Donc parfois il semble que c'est un faible commencement, n'est-ce pas? Bon. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Il n'y a pas de jour de Pentecôte. N'est-ce pas? On veut le Pentecôte. Là où l'esprit est versé, il y a 3000 qui sont sauvés. Pourquoi quand on va... vous allez prêcher l'évangile dans quelques semaines, n'est-ce pas? Voilà. Bon. C'est bien de prier le Seigneur. Seigneur, donne-nous des âmes. Même de préciser le nombre. Soyez, n'est-ce pas? Combien?
L'esprit de puissance.
L'esprit de puissance, oui. Oui, donne-nous l'esprit de puissance. Revêt-nous, n'est-ce pas, de ton esprit de puissance. Équipe-nous pour que nous puissions. Voilà, n'est-ce pas? Et c'est bien, n'est-ce pas, même d'être hardi, de demander au Seigneur, Seigneur, donne-nous, je ne sais pas, 50 noms, n'est-ce pas, 50 personnes qui s'intéressent, n'est-ce pas, que nous pouvons contacter. Mais je vous dis que le Seigneur vous donnera ce dont vous pouvez vous occuper. Vous voyez? Et c'est ça le principe du Seigneur. Faible commencement. Parce que nous sommes faibles et donc le Seigneur nous connaît. Et le Seigneur nous donnera ce que nous pouvons gérer. Pentecôte, c'était une fois, n'est-ce pas? C'est-à-dire que l'événement réel, Pentecôte, n'est arrivé qu'une seule fois. Il y a eu des renouveaux, n'est-ce pas? Au cours de l'histoire, oui, il y a eu des périodes de réveil, c'est ça. Des réveils, n'est-ce pas, où le Seigneur a fait quelque chose de puissant. Mais ça, c'est l'exception plutôt que la règle. Vous voyez,
Est-ce que le Seigneur peut le faire? Oui, il peut le faire, à n'importe quel moment. Mais si nous l'attendons chaque fois, nous serons déçus quand ça n'arrive pas. N'est-ce pas, vous voyez? Donc, même quand nous prions, oui, quand nous prions, il faut avoir de la foi, n'est-ce pas? Mais le Seigneur va répondre à nos prières, mais pas forcément selon la façon dont nous l'attendons. Le Seigneur va nous donner les armes, mais il va nous les donner selon notre capacité de les soigner. Voyez, donc nous aurons des armes, il y aura des gens, n'est-ce pas, des contacts, mais il y aura un travail. Ce ne sera pas facile. Il faut œuvrer, n'est-ce pas? Il faut se consacrer et il faut œuvrer. Et ça va être un faible commencement. Même à Yamoussoukro, à Korogo, à faible commencement, n'est-ce pas? On nous essayait. Mais un commencement, n'est-ce pas? Un commencement. Et ça, c'est réel. Ça, c'est réel. Donc, méfiez-vous. Et ça, c'est le prochain message. Méfiez-vous de la tentation de d'emprunter, de vous appuyer sur des méthodes ou des moyens, n'est-ce pas, de se multiplier rapidement. Il y aura toujours des offres. Chaque espace demain, n'est-ce pas? Demain on va voir ça. Il y aura des offres. Nous voulons vous aider. Nous invoquons le même Dieu que vous. Nous sommes tous un. Alors, nous voulons vous aider. Nous voulons venir construire avec vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons des propositions, des moyens, des méthodes pour que vous avanciez plus rapidement. Regardez-vous, vous êtes toujours faible. Regardons-nous, n'est-ce pas? Regardez-nous. Nous, on a ça. Même aux États-Unis, il y a des méga églises. Vous les connaissez? Mega churches. Oui. Bon. Oui, ben ils sont. Alors, et c'est pas pour les critiquer parce que il y a sûrement. Je ne dis pas qu'on ne peut pas apprendre, mais la tentation, c'est de renoncer à ce que le Seigneur nous a donné pour imiter, copier quelque chose qui semble être grand, n'est-ce pas, puissant, vainqueur, n'est-ce pas, pour gagner de la croissance. Donc les méga églises, ils sont là, mais même les méga églises, elles arrivent à un certain moment où elles se rendent compte que pour retenir ses membres, il y a du travail. Il y a du travail. C'est pas tel que nous le pensons. Il y a 5 000, 10 000 personnes là. N'est-ce pas? Et même à la télé, il y a des spectacles, enfin des,
spectacle, n'est-ce pas, on voit beaucoup de gens, n'est-ce pas, le stade où la salle est pleine. Et on se demande, mais bon,
voilà, nous sommes une trentaine de personnes qui se réunissent au centre communautaire Chicago. Nous sommes une trentaine de personnes, mais qu'est-ce que nous faisons? Et, mais regarde, n'est-ce pas, là, ils sont. Et le Seigneur fait des miracles, et il y a des gens qui. C'est pas qui tombe et qui et qui se font guérir, pas leurs jambes, pas une jambe qui n'est pas qui pousse, n'est-ce pas, donc voilà, et il semble que le Seigneur ne fait rien parmi nous. Ben, nous gagnons une personne vient et une autre s'en va. Et nous sommes, n'est-ce pas, ouais. Non, c'est. Je ne dis pas qu'il ne faut pas apprendre, n'est-ce pas? Mais je dis que qu'est-ce que le Seigneur nous a donné? L'engagement, la vision. Nous ne pouvons jamais la compromettre. Nous ne pouvons jamais la renoncer. Est-ce que nous pouvons apprendre? Oui. Nous pouvons apprendre. Alors, je vous dis, on a appris, on est en train d'apprendre. Hein? Même la façon de prêcher l'évangile, d'aller, par exemple, visiter porte à porte, nous avons essayé ça, nous faisons ça, de temps en temps, ça, quand le Seigneur nous dirige, n'est-ce pas? C'est contacter les gens là où ils sont, n'est-ce pas? Aller chez eux. Ou bien aller dans des lieux publics, n'est-ce pas, pour les rencontrer. Il y a toutes sortes de moyens, n'est-ce pas? Mais quand il s'agit de compromettre ou d'introduire quelque chose dans les réunions, n'est-ce pas, qui est Christ plus quelque chose pour attirer les gens, les attirer facilement en compromettant la pureté de Christ, à ce moment-là, nous risquons de renoncer, nous risquons de perdre Christ lui-même. La pureté qui est en Christ. Ah. Donc, vous connaissez sans doute, même mieux que moi, l'évangile de prospérité. Oh, et vous pouvez gagner des gens facilement. Oh, ça c'est. Ah. Et vous pouvez toujours prêcher Christ. Vous aurez une meilleure vie et vous aurez Christ. Alors, c'est un moyen d'attirer les gens. Et une fois attirés, vous leur présentez Christ. Bon, c'est. N'est-ce pas? Pas mal. Ça a l'air assez attirant. Mais. Est-ce que nous sommes contents avec Christ? Notre message est Christ. Notre vie est Christ. Même le dernier cantique que nous avons chanté, tout est en Christ. Hein? Christ lui-même. Christ est notre message. Donc, comment? Comment être fidèle à Christ tout en s'occupant des gens, tout en les soignant, en les amenant à Christ, en les amenant à connaître le Seigneur, pas à connaître des méthodes, par des
des jeux, n'est-ce pas, des choses qui les trompent, qui peuvent les tromper, qui peuvent les attirer. Non. Nous prêchons l'évangile d'une façon pure, n'est-ce pas? Nous ne compromettons jamais l'évangile. Nous ne compromettons jamais la pureté de Christ. Pas facile. Faible commencement, n'est-ce pas? Nous voulons être forts. Nous voulons être puissants. Nous voulons être dynamiques, n'est-ce pas? Et effectivement, même si nous pouvions être dynamiques, puissants, nous ne pourrions pas le faire. Non, parce que ce n'est pas nous. Ce n'est pas notre constitution. Voilà, et le Seigneur nous connaît aussi. Par sa miséricorde, il nous garde. Hein? Je veux être comme, n'est-ce pas, un prédicateur tel ou tel, n'est-ce pas, charismatique, avec... Non, même si j'essayais de le faire, je ne pourrais pas. C'est pas moi, c'est pas notre constitution. Nous avons appris autrement, n'est-ce pas? Donc il y a quelque chose en nous, même si nous voulions faire ça, nous ne pourrions pas le faire, nous ne réussirions pas. Nous voulons rivaliser avec les méga églises, vraiment? Mais c'est curieux, intéressant, comment les gens parfois disent, ah, regardez, ils croissent, pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas faire comme ça, comme eux, n'est-ce pas, avoir un grand orchestre avec des musiciens. Non, je n'ai rien contre, il y a, dans certaines églises, il y a des, n'est-ce pas, des frères et sœurs qui jouent, qui, des instruments musicaux. Mais vous voulez un grand orchestre? Vous êtes sûr? Vous pouvez vraiment vous débrouiller comme ça? Ceux qui sont retournés à Jérusalem avaient déjà une constitution. Nous avons touché ça hier. Pendant 70 ans, ils n'avaient pas oublié, ils n'avaient pas perdu leur constitution. Alors, les sacrificateurs étaient toujours sacrificateurs. Ils ne devaient pas réapprendre à devenir sacrificateurs. Hein? Les Lévites, peu. Bien qu'ils étaient peu, n'est-ce pas, peu nombreux, 74, ils étaient lévites, les fils des portiers, les chantres, les néphitiens, n'est-ce pas, ils avaient une certaine constitution et ils ont servi selon cette constitution. Pas autrement. Alors, ce que le Seigneur nous a donné, hein, certaines constitutions, nous ne pouvons pas aller au-delà. Si nous essayons, ça ne va pas réussir, ça ne va pas marcher. Alors, ce que le Seigneur nous a donné, c'est exactement ça dont il nous faut. C'est ça qu'il faut, n'est-ce pas? C'est exactement ça. Ni plus, ni moins. C'est Christ. Le Christ dont nous jouissons, le Christ que nous expérimentons, le Christ qui œuvre en nous, le Christ qui, n'est-ce pas, est constitué en nous, le Christ à qui nous sommes consacrés, c'est ce même Christ que nous prêchons, que nous multiplions, que nous répandons.
rien d'autre.
Et ça, c'est un faible commencement.
Mais Dieu dira, la gloire du deuxième sera plus grande que la gloire du premier. Ah, ça veut dire que Dieu est tellement content. Ah, il est vraiment. Ah, il prend plaisir à son peuple quand son peuple le connaît. Quand son peuple est pur, purifié, pour n'avoir que Christ lui-même. Ça c'est, n'est-ce pas? C'est ça qui satisfait Christ. C'est ça qui va édifier l'Église. Amen. Donc là, c'est un peu, n'est-ce pas, le message 6. Ah, c'est la consécration, n'est-ce pas, et les faibles commencements. Six ou sept? Sept, oui, c'est vrai, c'est sept. Oui, amen, sept, oui. Demain, ce sera 8. Peut-être 9, ça dépend, on va voir si, comment le temps, si le temps le permet. Amen.